Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonjour Stéphane. Bon, il est temps de parler d'un sujet qui fâche. Je vois d'ici le peuple breton aiguiser la hache de guerre, rassembler ses troupes et marcher toutes et tous ensemble vers la ligne de front. C'est que beaucoup sont sûrs de notre bon droit, de réclamer ce qui nous serait dû et, à entendre les mots que certains prononcent, prêts à en découdre. On peut aisément l'affirmer, de part et d'autre du couénon, il faut dire que ça se chamaille. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous propose de sauter à pieds joints dans ce dossier brûlant qu'est le Mont Saint-Michel. Et je vous propose de le traiter sans détour en posant LA question qui précipite tous les affects. Le Mont Saint-Michel est-il breton ou normand? Si la réponse à cette question semble historique, à en voir ce que les partisans de tel ou tel camp font des faits, on se rend bien compte qu'elle est politique. On ne va pas dérouler le fil que tout le monde connaît. Après la fondation du monastère en 708, avant même que la Normandie n'existe, et alors que la Bretagne, en tant qu'entité géographique, administrative et politique, n'existe pas non plus, celui-ci est devenu un objet de grande convoitise pour ces deux puissances, chacune essayant d'asseoir sa domination sur le mont. Mais, après 3 siècles de véritable ping-pong entre les deux rives du fleuve, il semble s'être arrimé sur la rive droite, côté normand. Sauf que la conclusion de cette histoire ne semble pas convenir à tout le monde, même 1000 ans après. Le couénon est-il vraiment fou d'avoir mis le mont en Normandie? À mon sens, désolé mes chers compatriotes, mais non. Pourquoi? Laissez-moi vous parler du sanctuaire de l'archange Saint-Michel qui se trouve au Monte Sant'Angelo dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie. Depuis une supposée apparition de l'archange en 490, ce lieu est devenu au fil des siècles un haut lieu de dévotion pour l'archange. De plus, celui-ci a le bon goût de se trouver sur le chemin de nombre de pèlerins qui souhaitent se rendre à Jérusalem depuis l'Europe de l'Ouest, que ce soit à l'aller ou au retour. Au fil des siècles, beaucoup ont décidé de s'y arrêter définitivement, notamment des Normands. Tant et si bien qu'après 1054, alors que la rupture entre l'église grecque d'Orient et l'église romaine d'Occident est de plus en plus marquée, le pape voit tous ces Normands installés proches de chez lui comme une aubaine. Après tout, leur réputation n'est plus à faire. Ils savent très bien faire la guerre, le genre de peuple qu'il vaut mieux avoir avec soi que contre soi. Avec l'aval de celui-ci, les Normands, déjà bien implantés et organisés dans le Bénévent, se lancent à la conquête du sud de l'Italie, qui était alors dans la sphère d'influence de l'Empire byzantin. Et puis, tant qu'à faire puisque l'entreprise est déjà bien avancée et fructueuse, ils en profitent pour conquérir l'émirat de Sicile, alors sous domination arabe, jusqu'à fonder le royaume normand de Sicile en 1130. Une affaire rondement menée, comme la conquête de l'Angleterre, une autre très belle réussite qu'on peut aussi leur concéder. Une analyse que j'ai tendance à dresser, c'est que la place que prend la dévotion à l'archange Saint-Michel dans la culture normande explique au moins en partie pourquoi autant d'entre eux se sont implantés dans le Gargano, au pied de ce sanctuaire. Une proximité culturelle entre deux lieux géographiquement très éloignés. Je n'ai pas le sentiment que ce culte soit aussi présent dans la culture bretonne que dans celle normande. Culture bretonne qui, c'est encore mon avis, compte déjà suffisamment de bondieuseries comme ça. En fait, a-t-on vraiment besoin d'un clocher de plus? Quand on observe la sécularisation de la société en général, et bretonne en particulier, on se rend bien compte que ce n'est pas la religion le véritable motif. D'autant que le couénon se traverse très facilement aujourd'hui. Pas besoin de sortir la mitraille si vous souhaitez vous rendre au mont y prier. Mais pourquoi alors faire une fixette là-dessus? Pour y répondre, je vous propose de faire un parallèle avec un sujet qui pourrait y ressembler. Le retour de la Loire Atlantique en Bretagne administrative, précision utile car nous savons qu'elle n'a jamais quitté notre Bretagne historique et culturelle. Ici, nous sommes sur Bretagne 5, je n'ai donc pas besoin de vous en convaincre. J'aimerais cependant questionner vos sentiments. Ne ressentez-vous pas ici l'injustice, le déchirement, la domination sur un peuple à qui on refuse le droit de s'organiser, la négation du réel? Aussi, comment s'exprime ce sentiment? Il s'exprime politiquement, par la proposition d'un vote pour que les citoyens puissent trancher eux-mêmes cette question. Ici, pas de justification mystique sur le cours d'un fleuve. La Loire ne semble pas perturbée par les désaccords des hommes. Personnellement, je vois le sujet du Mont-Saint-Michel comme une manifestation d'un chauvinisme plus que d'un nationalisme breton inclusif. Des personnes plus en quête de gloriole que d'identité, plus tournées vers l'image à renvoyer que l'envie de faire peuple. Il n'est pas question de posséder Nantes, mais d'être avec les Nantais. Après tout, c'est ce même sentiment de conquête, cette même volonté de domination de l'autre que des Bretons expriment envers le Mont, qui est à l'origine de cette Bretagne à quatre départements que les Bretons déplorent. Dès lors, posons-nous la question. Pourquoi reproduire sur d'autres ce que nous reprochons à certains?
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.